À Moulis, en Ariège, les scientifiques de la station d'écologie expérimentale étudient l'évolution du vivant et les stratégies d'adaptation des espèces. Avec le métatron, un ensemble de 48 cages disposées sur 4 hectares, ils observent comment les lézards ou les papillons réagissent au changement climatique. Et dans leur laboratoire souterrain, depuis les années 50, ils élèvent et étudient des protées, une espèce d'amphibien cavernicole aux propriétés étonnantes.
Alors, on emprunte donc une galerie artificielle pour rejoindre la galerie naturelle. Un petit peu plus loin, Olivier Guillaume, je suis ingénieur de recherche en écologie et directeur adjoint à l'heure actuelle de la station d'écologie théorique et expérimentale de Moulis.
C'est un site quand même assez unique en France ici.
Alors là, on a dérangé une petite chauve-souris. Oui, en fait, c'est la seule structure qui offre en fait la possibilité de faire un laboratoire en milieu naturel sous terre. Première petite salle.
Donc on arrive dans une petite salle avec des bacs.
Différents aquariums et ici notamment donc le proté.
Si vous deviez les décrire, ça ressemble à des grandes salamandres. Comment vous les décririez ces animaux, le proté?
Alors tout à fait, ça ressemble à une grande salamandre, assez allongée, taille maximale une trentaine de centimètres, museau, bout de la queue. Contrairement aux salamandres adultes, on a toujours des branchies qui persistent. C'est un animal néoténique, c'est-à-dire qu'il ne fait pas de métamorphose. Il conserve des traits juvéniles, comme la respiration branchiale. Il est également dépigmenté. Donc il apparaît blanchâtre avec une peau pâle en quelque sorte. Elle est dépigmentée comme l'essentiel des cavernicoles, mais elle a la capacité à se repigmenter si on l'expose à la lumière. Alors qu'un très grand nombre de cavernicoles ont totalement perdu cette capacité à produire la mélanine, le pigment, qui protège des radiations solaires. Alors le proté a très certainement colonisé le milieu souterrain, donc il y a entre 5 et 30 millions d'années, mais on pense que la pression venait des glaciations à l'extérieur de la grotte qui l'ont incité à donc se réfugier sous terre. Alors là, on le voit s'agiter, hein, parce qu'évidemment, comme on l'éclaire, il déteste ça et sa première réaction, c'est de fuir. Mais sinon, donc, il passe son temps, on va dire, à ne rien faire. On a des animaux qui ne bougent environ que 5 minutes par jour. Le reste du temps, ils le passent à ne rien faire, collés contre leur pierre, là, dans un abri, à attendre que ça se passe.
Pourquoi les scientifiques se sont intéressés à cette espèce, le proté?
C'est le seul vertébré cavernicole strict d'Europe. Donc évidemment, pour les Européens, c'était une espèce particulièrement intéressante pour étudier les mécanismes d'adaptation à un environnement comme le milieu souterrain, à forte contrainte, absence de lumière. Comme il n'y a pas de lumière ici, il n'y a pas de production primaire végétale, autotrophe du carbone. Donc on a des apports de nourriture de l'extérieur uniquement. Mais évidemment, la quantité qui arrive sous terre est très très faible, ça arrive très dégradé, donc c'est très peu énergétique. L'essentiel des cavernicoles donc, sont des invertébrés détritivores et on a quelques prédateurs invertébrés et le proté en Europe qui est, on va dire, le super prédateur du milieu souterrain. Donc on a un animal qui devient adulte vers 15-20 ans, mais une longévité qui est estimée à 80-100 ans. Ici, au laboratoire de Moulis, on est à l'heure actuelle à un petit peu plus de 60 ans d'élevage et les animaux les plus vieux que l'on ait à l'heure actuelle ont 47 ans. On voit ici les dernières pontes. Donc là, on a une ponte. Vous voyez les embryons qui bougent, là, dès que je les éclaire, encore dans leur gang.
Qui sont collés à la paroi d'une pierre.
Voilà. Donc on a une ponte de 35 œufs là, qui sont en train de se développer. C'est assez inespéré. Parce qu'en milieu naturel, en fait, on n'a aucune information pratiquement sur la biologie de cette espèce. Donc on n'avait jamais vu d'œufs, jamais vu de larves. Donc l'essentiel de la connaissance, finalement, vient d'ici, à Moulis, où on a pu, par la mise en élevage, avoir tous les âges, tous les stades de développement, les décrire et comprendre un petit peu mieux les comportements, on va dire, naturels. La croissance est continue tout au long de la vie et les plus grands qu'on a eu ici faisaient 35 bons centimètres. On a découvert récemment qu'il avait une très très grande résistance au jeûne prolongé sur plusieurs mois. Il vit a priori dans un environnement qui est très riche en oxygène dissous, mais c'est, semble-t-il, le champion du monde de la résistance à la survie en milieu dépourvu totalement d'oxygène. Donc plusieurs heures. C'est effectivement quelque chose pour lequel on n'a pas encore d'explication, on va dire, évolutive. Ça n'est pas très très clair.
Alors je vais laisser les protées tranquilles et je vais remonter à la surface pour aller voir un autre dispositif unique de la station d'écologie expérimentale du CNRS de Moulis. Il s'agit du métatron qui permet d'observer, cette fois-ci à la surface, l'adaptation des espèces animales au changement climatique.
Je suis Julien Cotte, chargé de recherche et je suis responsable scientifique du métatron. Alors là, on est dans le système expérimental, le métatron, qui est un système du CNRS, qui permet d'étudier plusieurs problématiques écologiques, donc le changement climatique et la fragmentation des habitats. C'est assez unique au monde, c'est vrai qu'il y a plusieurs personnes qui viennent travailler ici parce que c'est des systèmes qui peuvent être connectés, qui peuvent avoir de grandes distances. Il y a peu de systèmes comme ça où on peut manipuler à la fois la fragmentation et le climat, j'en connais peu, en effet. Alors, la fragmentation des habitats, c'est la conséquence des activités humaines, donc les infrastructures humaines, que ce soit les routes, les bâtiments, l'urbanisation, mais on peut même considérer les champs, qui font que les populations des animaux soient divisées en petites parcelles, qui empêchent le mouvement donc, des animaux. Et donc, nous, on essaye de reproduire cela en ayant des parcelles d'habitat que l'on connecte plus ou moins grâce à des couloirs à dispersion. Donc, on a 48 parcelles d'habitat, on a deux systèmes de 24 parcelles d'habitat que l'on peut connecter entre elles, grâce à des couloirs qui font une vingtaine de mètres, chaque parcelle d'habitat faisant 100 mètres carrés.
Bon, je vous suis, on fait un petit tour. C'est comme une sorte de grande tente.
Une sorte de grande tente. Souvent, on se demande si on fait du camping ici, mais c'est pas le cas. C'est une grande tente avec... À l'intérieur, contrairement à ce que les gens peuvent imaginer, c'est très naturel en fait. La végétation et les insectes qui sont dedans ont été enfermés. Et depuis, c'est très, très riche en diversité végétale ou animale. Mais sinon, en effet, c'est une grande tente avec des systèmes d'arrosage et de volets qui se ferment plus ou moins selon les températures que l'on met. C'est 10 mètres sur 10 mètres.
Donc 100 mètres carrés par unité d'habitat, il y en a combien en tout ?
Il y en a 48. Et sur l'entièreté du système, c'est à peu près 4 hectares. Donc dans chacune des parcelles d'habitat, on peut mesurer les conditions environnementales, la température, l'humidité ou la luminosité, de manière continue. On peut la manipuler grâce à des systèmes à la fois de volets fermants ou d'arrosage. On ne s'intéresse pas uniquement à la fragmentation, mais à l'interaction entre cette fragmentation du paysage et le changement climatique, et les compositions des populations, la présence de différentes espèces. Moi, ma partie, c'est la partie qui est là-bas au fond, donc je ne connais pas trop cette partie-là. La première espèce sur laquelle je travaille, c'est le lézard, un lézard vivipare, assez présent sur toute l'Europe et toute l'Eurasie. Je m'intéresse également à son interaction avec l'environnement, et principalement avec d'autres espèces, des araignées, des orthoptères, mais également les espèces végétales. J'essaye d'étudier en fait l'entièreté de l'environnement, du sol, des microbiotes. Alors nous, on s'intéresse à est-ce que les différentes espèces peuvent être impactées par le climat, mais également comment leurs interactions entre elles sont affectées. Donc, ce qui nous intéresse, c'est de regarder les effets directs du climat et indirects par des interactions avec d'autres espèces. On a plusieurs conclusions. Justement, on a des conclusions sur le lézard, où on avait vu une accélération du rythme de vie de cette espèce, qui n'est pas non plus ultra surprenante dans un environnement plus chaud. Mais donc, on a cette espèce qui grandit beaucoup plus vite, qui se reproduit plus tôt, mais qui meurt plus tôt. On a également, c'est une espèce qui, par exemple, se reproduit une fois par an. Dans des climats chauds, elle se reproduit deux fois par an, ce qui n'existe pas en milieu naturel, cette espèce. Donc ça, c'est le volet lézard. On voit aussi, on est en train d'estimer la manière pour cette espèce de s'adapter au climat. Les études qui sont habituellement menées sur le climat sont faites en milieu naturel et sont évidemment nécessaires et indispensables. Ici, on arrive quand même à pouvoir contrôler ou à pouvoir mesurer l'entièreté du système, ce qui nous permet d'éviter également ce qu'on appelle des facteurs confondants en science. C'est-à-dire, lorsqu'on manipule le climat, on manipule le climat. On n'a pas, par exemple, de la dégradation de l'environnement. Donc on peut vraiment isoler cet effet-là et pouvoir avoir une vision intégrative de tout ce qui se passe autour de nous.